Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'actualité, nature sauvage et virage. Au programme, les technos sont des entreprises comme les autres. Poisson, relique de l'Est canadien. Et réduire le gaspillage et le coût de votre panier d'épicerie. Bonne écoute.
Les technos sont des entreprises comme les autres. Un texte de Jean-Philippe Cipriani, paru le 14 mars 2023 dans l'actualité. Ça licencie chez Google, Uber, Amazon et Netflix notamment. Comme quoi, même qualifiée abusivement de nouvelle, l'économie sur laquelle reposent ces entreprises répond aux mêmes impératifs du marché. Fin 2007, quand j'étais chroniqueur techno, Apple m'avait prêté un exemplaire de sa révolution pour le tester. L'iPhone n'était pas encore sorti au Canada, mais il dictait déjà l'avenir. Ceux qui ont couvert ces années se souviennent d'une époque foisonnante. La technologie allait changer le monde, et on décrivait chaque innovation avec plus d'admiration que d'esprit critique. Notre vie tiendrait dans nos mains. Tous nos objets seraient bientôt connectés. Le transport serait aussi métamorphosé par ce progrès. Un parc de véhicules autonomes presque entièrement partagé. Une fluidité assurée par des feux de circulation intelligents qui suivraient véhicules et piétons en temps réel. Et le milieu de travail créatif des entreprises techno, modèle de coolitude avec cafétéria, pouf et table de baby-foot, allait faire tache d'huile dans tous les bureaux de l'Occident. Le même enthousiasme est apparu à l'égard des réseaux sociaux, qui devaient retisser des liens entre les communautés. Nous avions tenu pour acquis que tout resterait gratuit, parce que nous sommes le produit, n'est-ce pas? Tout en acceptant passivement, ou en ignorant, que nos comportements soient épiés à des fins mercantiles. À quoi bon s'opposer au progrès? Les technos n'avaient que le bien en tête pour un monde plus harmonieux. Elles n'allaient que faciliter nos modes de consommation. La nouvelle économie promettait la prospérité à ceux qui s'y collaient. Les derniers mois sont un rappel brutal à la réalité. Qu'on pense aux compressions chez Meta, 11 000 employés, Microsoft, 10 000 postes, Google, 12 000, Amazon, 18 000, Disney, 7 000, Warner Bros., 125, Netflix, 300, Pinterest, 150, Snap, 1300, ou Zoom, 1300. On pourrait ajouter la moitié des employés licenciés chez Twitter, même si on plaiderait du coup de sang du nouveau propriétaire, Elon Musk. Il reste que Twitter était déficitaire et que des compressions allaient survenir, Musk ou pas. Quant à Apple, l'entreprise résiste, mais elle a mis fin au contrat de plusieurs sous-traitants. Ce retour à la réalité se vérifie aussi à petite échelle. Google a remercié les 30 massothérapeutes de l'entreprise et Facebook a fermé son service de buanderie. Cette conversion des technos à l'austérité fait image. Même si, dans beaucoup de cas, les licenciements sont moins nombreux que les embauches pendant la pandémie, ce n'est pas terminé. Un certain pessimisme règne chez les technos, au lendemain d'une pandémie qui favorisait une consommation accrue des écrans et qui a poussé les profits des GAFAM en hausse de 55 % en 2021. Ce devrait pourtant être une évidence. Les technos sont des entreprises comme les autres. Cotées en bourse pour la plupart, elles se battent pour leur pointe de tarte des consommateurs et leurs actionnaires et investisseurs attendent des rendements. Pourquoi ce retour aux bases du capitalisme? Parce qu'il coïncide avec la hausse des taux d'intérêt. Pendant près de deux décennies, les technos dépensaient sans compter, soutenus par un énorme capital de risque et beaucoup de spéculation. Les investisseurs lançaient l'argent à tout vent, même si l'entreprise accumulait les pertes. Vous écoutez, les technos sont des entreprises comme les autres. Un texte de Jean-Philippe Cipriani, paru le 14 mars 2023 dans l'actualité. C'était le mantra de la bulle. Tant que l'entreprise était en croissance, les résultats financiers n'avaient aucune importance. Tant qu'elle écrasait ses concurrents, pourrait-on ajouter. Cette stratégie, appelée blitzscaling, consistait justement à devenir puissant très rapidement pour étouffer la naissance même d'une concurrence. Cela donnait des succès retentissants, comme Uber, ou des échecs patentés, comme WeWork. il reste qu'avec un capital plus cher à emprunter, les sources se tarissent. Si bien que les technos n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs revenus, diminuer leurs coûts, voire baisser la qualité des produits. Le temps où elles dépensaient sans compter sur la promesse d'une révolution est loin. Disney, par exemple, a injecté des sommes colossales dans les productions pour Disney+, tout en maintenant leur abonnement à petit prix. Elle se retrouve avec des pertes de 1,1 milliard au dernier trimestre. L'entreprise a promis des profits à la fin de l'an prochain, ce qui se traduira inévitablement par d'autres licenciements, moins d'argent dans les productions et une majoration attendue du prix des abonnements. De son côté, Netflix a une dette de 14 milliards et ferme le tuyau par lequel ses abonnés partageaient leurs comptes. La baisse des revenus des publicités, pourtant plus présente que jamais sur la plateforme, incite Facebook à tester, à l'instar de Twitter, un abonnement payant. Dans les derniers résultats de Meta, le mot « efficacité » revient 6 fois plus souvent dans la bouche de Zuckerberg que « Metaverse », qui devait être sa planche de salut. Ça en dit long. La liste pourrait continuer chez Uber ou Amazon. Le constat est simple. Les technos sont avant tout des entreprises qui répondent aux impératifs du marché. Même si elles ont grandi en s'affranchissant des modèles d'affaires traditionnels, ceux-ci les rattrapent. Et elles devront recommencer à innover si elles veulent retrouver du capital de risque prêt à les soutenir. L'avertissement vaut également pour l'intelligence artificielle, nouvelle révolution proclamée. Là aussi, ce sont des investissements très coûteux pour des résultats incertains. L'humain est encore très humain et le marché est encore très cupide. C'était « Les technos sont des entreprises comme les autres », un texte de Jean-Philippe Cipriani, paru le 14 mars 2023 dans l'Actualité.
Le lépisosté osseux, poisson relique de l'Est canadien, un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru dans Nature sauvage, automne 2022, numéro 57. Le corps est lancé, la tête prolongée par un museau effilé garni de centaines de dents acérées, il est là, impassible, mais néanmoins prêt à bondir sur une proie. Peu connu, ce poisson à caractère préhistorique habite certaines des rivières de l'est du pays. Brève rencontre avec le lépisosté osseux. L'origine des lépisostés remonte à l'ère mésozoïque, plus exactement à la période du Crétacé inférieur, il y a 100 millions d'années. Les premiers lépisostés ont partagé la Terre avec les dinosaures et ont peut-être fait partie du repas de ces derniers. Classés parmi les poissons les plus primitifs de la faune nord-américaine, les lépisostés présentent en effet des caractéristiques archaïques, dont une vessie natatoire très vascularisée, qui tient lieu de poumons et qu'ils utilisent afin de respirer l'air directement à la surface quand l'eau est trop bourbeuse, trop chaude ou trop peu oxygénée. Leurs vertèbres sont opisthocèles et semblables à celles des amphibiens, c'est-à-dire qu'elles sont convexes devant et concaves derrière, s'emboîtant ainsi parfaitement les unes dans les autres. Ces poissons se distingue enfin par un intestin valvulaire en spirale, un trait anatomique du système digestif que seuls possèdent d'autres poissons archaïques. Les lépisostés canadiens. Deux espèces de lépisostés fréquentent les eaux de l'est du Canada, tout particulièrement dans l'extrême sud-est du pays. Leur présence dans nos cours d'eau reflètent la limite septentrionale de leur aire de distribution en Amérique du Nord. Le lépisosté osseux, la plus commune des deux espèces, est confiné aux eaux douces et saumâtres. Au Québec, on le trouve dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ainsi que dans les cantons de l'Est, dans la rivière Richelieu et dans la rivière des Outaouais. Sa répartition en Ontario se situe au sud d'une ligne reliant le lac Témiscamingue à Sault-Sainte-Marie, ce qui comprend les grands lacs, à l'exception du lac supérieur. Ce lépisosté est toutefois absent des maritimes. Le lépisosté tacheté est, quant à lui, beaucoup plus rare. Et ses aires de répartition se bornent à la partie orientale du lac Ontario, au secteur central et oriental du lac Érié, à la rivière Détroit et au lac Sainte-Claire. C'est surtout par la longueur du museau que ces deux espèces se différencient davantage, celui du lépisosté osseux étant relativement plus long et étroit que celui de son cousin tacheté. La démesure de ce rostre leur vaut d'ailleurs plusieurs noms vernaculaires imagés, dont poisson-baguette et brochet-crocodile. Leurs dents, de taille variée et très nombreuses sur toute la longueur du museau, sont pointues, tranchantes et disposées en trois ou quatre rangées. Les écailles sur le corps sont modérément grandes, épaisses, osseuses et non imbriquées. Les lépisostés sont des poissons difficiles à observer. Communs seulement dans les eaux de leur aire de répartition, ils sont peu actifs, recherchant les endroits tranquilles où ils gisent, souvent immobiles et ressemblant à des troncs flottant parmi les plantes aquatiques. Quand ils s'activent enfin à la vue d'une proie, ils s'approchent lentement et la saisissent au passage d'un vif mouvement latéral du museau. Précise, l'attaque manque rarement, leurs mâchoires dentelées, agrippant et blessant mortellement la proie. Bien qu'en apparence léthargiques, les lépisostés peuvent, grâce à leur hydrodynamisme, se mouvoir rapidement lorsque la situation l'exige. Un régime alimentaire poissonneux. Les lépisostés se nourrissent principalement d'autres espèces de poissons, une diète qui constitue entre 60 et 90 de leur régime alimentaire. Ils affectionnent les crapets, les achigans, les meuniers, les chevaliers, les perchaudes, les dards, les barbottes, les barbus, les ménés et même les brochets. À l'occasion, ils dévoreront aussi des grenouilles, des salamandres, des écrevisses et des vers. Au début de leur vie, les lépisostés s'attaquent d'abord aux insectes aquatiques et aux alevins. Progressivement, ils deviendront de redoutables prédateurs. Les adultes sont aptes, d'un seul coup de mâchoire, à capturer tout un banc de menus poissons. Si la proie est de grande taille, elle sera graduellement amenée vers une position permettant de l'avaler la tête la première. Bien qu'habiles chasseurs, les lépisostés s'alimentent cependant de façon sporadique et ne chassent pas constamment. De fait, l'anatomie singulière de leur intestin fait en sorte que la nourriture requiert près de 24 heures de digestion. Cette durée s'explique par la présence à l'intérieur de l'intestin d'une valvule dont le rôle consiste à retarder la descente des aliments, répartissant ainsi l'apport alimentaire sur une longue période. Grâce à sa structure en spirale, la valvule, qui est de même l'apanage de maintes espèces très anciennes comme les raies, les requins, les dipneustes et les sélacanthes, offre une surface d'absorption importante qui compense la courte longueur de l'intestin des lépisostés. Vous écoutez Le lépisosté osseux, poisson relique de l'Est canadien, un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru dans Nature sauvage, automne 2022, numéro 57. Autre trait anatomique fascinant des poissons primitifs, la respiration aérienne. Durant l'été, alors que l'oxygène dissous dans l'eau se raréfie, les lépisostés montent à la surface respirer l'air, et ce parfois jusqu'à 6 fois en 10 minutes. En sortant le rostre hors de l'eau, ils aspirent par la bouche entrouverte une grande quantité d'air qui s'accumule dans la vessie natatoire, un organe aux parois richement pourvues de vaisseaux, dont le dessin rappelle les alvéoles d'un nid d'abeilles. Entre les mois d'octobre et d'avril, les lépisostés quittent les rivages des rivières pour entrer dans un état de dormance en eau plus profonde. Ils y resteront immobiles, couchés sur le fond, ne consommant plus aucune nourriture et ne remontant plus respirer à la surface. Des œufs par milliers. Vers la fin du printemps, de la mi-mai au début de juin, les lépisostés quittent leur quartier d'hiver et se dirigent vers des rives peu profondes et recouvertes de végétation aquatique afin d'y établir leur frayère. Chaque femelle est habituellement accompagnée par plusieurs mâles. À la suite de jeux nuptiaux, la femelle pond, en plusieurs fois, entre 4 000 et 60 000 œufs visqueux que les mâles s'empressent d'arroser de laitance. Après la fécondation, ces œufs verdâtres de 3 mm de diamètre s'éparpilleront au gré des courants, la plupart adhérant aux plantes. Les jeunes éclosent au bout de 5 à 15 jours, selon la température de l'eau. Les larves, qui mesurent environ 7 mm de longueur et sont dépourvues de branchies externes, possède sous le ventre un gros sac vitellin, leur interdisant tout mouvement. Au bout du rostre, un disque adhésif comportant maintes verrues leur sert à s'attacher aux plantes jusqu'à ce qu'elles aient consommé le contenu de leur sac vitellin. Après une semaine, les larves ont atteint une longueur de 9 mm et absorbé une partie de leur réserve vitelline. Le corps s'est allongé, la mâchoire supérieure s'est étendue en forme de trompe et la colonne vertébrale a formé un filament qui dépasse la nageoire caudale. Après 15 jours, les lépisostés juvéniles nagent librement, ressemblent désormais aux adultes et commencent à devenir de grands prédateurs d'insectes aquatiques et de petits poissons. Une pérennité qui continue. Il est singulier que ces poissons des âges anciens, peu changés depuis le temps des dinosaures, habitent encore nos lacs et rivières. Non seulement y prospèrent-ils toujours, mais ils persistent en tant que prédateurs apex. En effet, les lépisostés adultes ne font l'objet d'aucune prédation particulière, si ce n'est de la part du balbuzard pêcheur, à l'occasion, d'un urubu à tête rouge, dans le cas d'un poisson échoué, ou encore de l'humain, qui le pêche quelquefois par accident et non de manière intentionnelle, car sa chair est farcie d'arêtes. Si l'habitat demeure sain, il y a lieu de croire que ces poissons vivront encore longtemps. Les lépisostés à travers le temps. Des fossiles de lépisostés ont été recueillis un peu partout dans le monde, les plus anciens ayant été trouvés en Afrique. D'autres, moins vieux et très semblables aux espèces actuelles, ont été exhumés dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, de couches géologiques datant du Crétacé supérieur. Après la disparition des dinosaures, les lépisostés se sont répandus sur le globe. Des fossiles ont été notamment découverts en Asie, en Europe et dans les Amériques. Dans les couches sédimentaires éocènes de la formation de la Green River au Wyoming, au Colorado et en Utah, les paléontologues états-uniens mettent régulièrement au jour des fossiles entiers de l'épizosté appartenant à trois espèces différentes. Ces poissons sont identiques à ceux vivants de nos jours et particulièrement aux lépizostés osseux. Si certains qualifient les lépizostés de fossiles vivants, il est plus juste d'affirmer que ces créatures sont bel et bien des poissons reliques, n'ayant guère changé depuis 50 millions d'années. Aujourd'hui, les lépizostés occupent seulement l'Amérique du Nord et une petite partie de l'Amérique centrale septentrionale. Les ichtyologues ont identifié 7 espèces appartenant à 2 genres distincts, Lépizostéus et Atractostéus. Citons, entre autres, la plus grande espèce, le Lépizosté alligator, A. spatula, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur et peser jusqu'à 140 kilos, et qui vit dans la vallée du Mississippi et les eaux côtières du golfe du Mexique. Ce membre de la famille des Lépizostéidés possède une remarquable longévité pour un poisson de 70 à 95 ans. C'était le Lépizosté osseux, poisson relique de l'Est canadien, un texte de Jean-Pierre Sylvestre, paru dans Nature sauvage, automne 2022, numéro 57.
Réduire le gaspillage et le coût de votre panier d'épicerie. Un texte de Nathalie Hensley, paru en printemps 2023 dans le magazine Virage. Selon Recyc Québec, 63% de nos résidus alimentaires auraient pu être mangés. De plus, un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou jetée lors des différentes étapes de la fourche à la fourchette. Par ailleurs, la plus grande proportion du gaspillage se produit à la maison. Dans un contexte où l'augmentation du coût de la vie empêche bien des familles d'avoir accès à de la nourriture saine, le gaspillage alimentaire devient un enjeu social, économique et environnemental important. Pensons aux ressources précieuses exploitées inutilement lorsque l'aliment en bout de ligne n'est pas consommé. L'utilisation d'importantes quantités d'eau, les engrais chimiques et les pesticides qui polluent les écosystèmes, de même que le combustible brûlé pour la machinerie et le transport de la nourriture, ont des impacts néfastes sur notre environnement. On dit que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre, après la Chine et les États-Unis. Heureusement, chacun peut faire sa part pour réduire ce fléau. Planifier. 1. Planifiez vos repas de la semaine. Faites l'inventaire du réfrigérateur et du garde-manger et dressez une liste avant de vous rendre à l'épicerie. 2. Réorganisez régulièrement le frigo, en mettant ce qui doit être consommé dans les jours suivants bien en vue. Lavez et coupez les fruits et les légumes à l'avance, ils ont plus de chances d'être mangés. 3. Achetez en vrac, pour choisir la juste quantité et pour éviter le suremballage. Et méfiez-vous des gros formats moins chers. Les économies sont vite disparues lorsqu'on en jette la moitié. 4. Au marché, rescapez les fruits et les légumes en choisissant les moches, très mûrs ou légèrement abîmés, surtout lorsqu'ils seront cuits ou consommés le jour même. 5. Profitez d'économies substantielles en achetant des denrées excédentaires ou approchant la date de péremption. Pour ce faire, téléchargez sur votre téléphone les applications Flash Food ou Food Hero. Conserver. 6. Congeler. Presque tout se congèle, même le tofu. Coupez et congelez les légumes fatigués pour mettre en soupe, les fruits ridés pour vos muffins. Congeler les surplus de repas en portions prêtes à manger. 7. Meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. C'est une indication que certaines caractéristiques peuvent être dégradées, comme la texture par exemple, mais la plupart des aliments sont comestibles encore des semaines, voire des mois. Pour vous y retrouver, téléchargez le tableau Meilleur avant, bon après. mapac.gouv.qc.ca mapac.gouv.qc.ca FR Publication Meilleur avant, bon après, PDF. Produit par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. 8. La mise en conserve vous permet de profiter des fruits et légumes estivaux durant toute l'année en ralentissant le processus naturel de décomposition. Et c'est moins compliqué que ça en a l'air. Internet déborde de modes d'emploi et de trucs simples. Tout utiliser. 9. Adopter les menus vide frigo. Les pizzas, sautés de légumes, sauce pour pâtes, potage, riz, couscous, bol ou salade repas peuvent être composés de n'importe quel légume disponible. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients d'une recette peuvent être remplacés sans altérer le résultat. Osez les agencements non traditionnels, vous ferez de belles découvertes. 10. Certaines parties des légumes, comme les feuilles, fanes, pelures, cosses ou fleurs, sont souvent jetées à la poubelle alors qu'elles sont comestibles. Plusieurs recettes permettent de les cuisiner avec goût et de réduire davantage le gaspillage. On peut par exemple en faire des soupes ou des bouillons nutritifs. Éviter le gaspillage alimentaire et diminuer notre consommation de viande sont les deux gestes ayant le plus d'impact pour réduire l'empreinte écologique de notre alimentation. Ces gestes allègent du même coup le prix de notre panier d'épicerie. Alors, on s'y met? C'était « Réduire le gaspillage et le coût de votre panier d'épicerie », un texte de Nathalie Hensley, paru en printemps 2023 dans le magazine Virage.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Estelle Drolet et Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert et Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.